Et à 8h40, c'est la revue de presse d'Antoine Geoffin. Bonjour Antoine.
Bonjour Amélie, bonjour à tous.
Et ce matin, l'Algérie sur le toit de l'Afrique à la une d'El Watan.
C'est ainsi que le grand quotidien francophone algérien célèbre ses héros victorieux du Sénégal hier en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. 1-0, l'Algérie au paradis, titre de son côté l'Équipe. Reportage dans le journal sur le Vieux-Port à Marseille, mais aussi à Paris, de Barbès à Stalingrad, en passant par les Champs-Élysées où une marée blanche et verte a hurlé sa joie au coup de sifflet final.
Et quand le foot est là, la politique n'est jamais loin.
Ramener la coupe, on continue la révolution, écrit Mustapha Benfodil dans El Watan. Au vu de la manifestation d'hier contre le régime algérien, dit le journaliste, on en aurait presque oublié la finale de la CAN. Mais c'est sans compter sur ces nombreux manifestants qui portaient des maillots floqués, des stars, des Fennec, désormais champions d'Afrique. Pour Karim Elal, enseignant à Sciences Po, les Algériens se retrouvent dans cette équipe. Ces 22 joueurs sont davantage que l'équipe nationale. Il estime qu'ils font partie de l'équipe du Irak, du mouvement, de la révolution. Cette équipe-là, dit-il encore, incarne ce qui se passe dans le pays d'Alger à Constantine, d'Oran à Tizi Ouzou. Nul doute, enfin, écrit El Watan, que les deux hommes de Jamel Belmadi seront accueillis en héros à leur retour dans le pays en début d'après-midi. Deux salles, deux ambiances. Forcément, le Sénégal attendait, lui, un premier titre continental raté. À lire, mais surtout à écouter sur le site de RFI, la déception immense à Dakar. Les Sénégalais regrettent le but algérien, un coup du sort, mais se montre beau joueur et félicite le champion. C'est la loi du foot, dit un supporter. Ça viendra la prochaine fois, Inch'Allah.
La sensation Julian Alaphilippe, le coureur français, peut tirer la langue tout de jaune vêtu à la une de l'Équipe.
Il a déjoué les pronostics en conservant son maillot de leader après le contre-la-montre à Pau hier. Mieux encore, il l'a consolidé après sa victoire surprise devant son dauphin, le gallois Geraint Thomas. Toujours plus fort, s'exclame l'Équipe. Au jeu de repousser les limites et d'aller au-delà des frontières du supportable, Alaphilippe est en ce moment imbattable, écrit Alexandre Ross. Imbattable jusqu'à Paris, dans les colonnes du quotidien. Le peloton ne l'écarte pas, mais il reste une semaine et la haute montagne à affronter. Et si Alaphilippe décrochait la lune, s'interroge le Parisien. Deux anciens coureurs donnent leur avis. Pour Sylvain Chavanel, le Français est dans une bonne position car il n'a plus qu'à suivre. Facile à dire, pas vrai. Jean-François Bernard, plus réaliste, pense qu'Alaphilippe n'aura pas le même rendement la semaine prochaine dans les Alpes. Apéritif déjà bien consistant, le mythique Tourmalet cet après-midi dans les Pyrénées, arrivé à 2115 mètres d'altitude.
Julian Alaphilippe, la tête dans les étoiles quand, il y a 50 ans, tous nos regards étaient braqués sur notre satellite.
Un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité. Cette phrase, Neil Armstrong l'a prononcée en marchant sur la Lune le 21 juillet 1969 à 3h56, heure française. Le Parisien publie des témoignages de lecteurs qui racontent leurs souvenirs de ce moment inoubliable, témoignage touchant que celui de Christiane, 6 ans à l'époque, pour l'enfant qu'elle est alors. Tous les soirs, ou presque, comme des millions d'autres, elle attend ce générique avec impatience sur la première chaîne de l'ERTF. Nicolas Pimprenel et Nounours, alors quand Christiane entend qu'il y a quelqu'un sur la Lune, elle ne comprend pas la portée de l'annonce. Est-ce que Nounours a quitté son nuage pour aller sur la Lune pour l'anniversaire de mon papa? Comme c'est mignon. Anecdote autrement moins poétique, cette nuit-là, Pierre, 21 ans, alors en plafonne un malheureux marcassin avec sa 4L en pleine forêt. Il trépigne, regarde la Lune et se dit que le pauvre animal a joliment choisi son moment pour s'envoler. Enfin, le grand-père d'Hélène, 4 ans à l'époque, n'y croit pas. Des bêtises tout ça, ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Et il retourne à son jardin.
Le Figaro revient, lui, sur ce grand rêve pour l'humanité.
Événement encore plus spectaculaire que la découverte de l'Amérique, l'ouverture du canal de Suez ou encore la conquête de l'Everest, écrit Étienne de Montotti. Le Figaro raconte l'alunissage, 12 minutes qui semble durer une éternité. La liaison radio avec Houston est mauvaise, la trajectoire calculée différente de celle que prend le module lunaire. Le rythme cardiaque du pilote, Neil Armstrong, montera à 150 battements par minute. Mais ça se termine bien et Armstrong, comme Aldrin, demanderont à Houston de prendre l'air au plus vite.
Ils sont 12 en tout à avoir foulé le sol lunaire de 1969 à 1972. 4 sont encore vivants aujourd'hui, Antoine.
Dans l'Équipe magazine, vous pourrez lire une longue interview de Charlie Duke, 83 ans et 10e homme sur la Lune, Apollo 16 en 72, surtout depuis Houston. C'est lui qui guidait Neil Armstrong lors de l'alunissage. Son tour vient 3 ans plus tard et quand il met le nez dehors, C'est formidable. Vous regardez autour de vous et vous savez que personne n'est venu là avant vous. Ce sentiment ne vous quitte jamais. Le vieux pilote sourit à l'évocation de ses souvenirs. Il s'amuse. Nos ordinateurs pour Apollo 16 étaient 800 000 fois moins puissants que les téléphones d'aujourd'hui.
Autre explorateur dans l'équipe magazine, Colin O'Brady, 54 ans. Il a traversé l'Antarctique en solitaire et sans assistance pendant 54 jours. Mais sa performance et surtout ce qu'il en dit fait bondir les puristes.
Et pour eux, l'Américain a clairement survendu son record 1455 km d'accord, mais il n'a pas traversé tout l'Antarctique puisqu'il n'a retenu que la partie continentale, exit les plateformes glaciaires qui font pourtant partie du continent. Autre chose, O'Brady affirme avoir traversé à pied, mais en fait il était à ski et il a suivi une voie tracée, l'autoroute de l'Antarctique qui va jusqu'au pôle. Forcément, la suivre fait gagner du temps et évite de se perdre. Ce record est une honte, s'insurge Laurence de la Ferrière, la première femme à avoir traversé l'Antarctique en 96.
Et puis peur jaune sur le 16e arrondissement. Comment vit-on quand les gilets jaunes manifestent tous les samedis presque en bas de chez vous et que de plus en plus de voitures brûlent, des magasins sont pillés et vandalisés?
Papier très intéressant, la une de M, le magazine du Monde. Vanessa Schneider est allée à la rencontre des riverains des Champs-Élysées. Le samedi 1er décembre, tout bascule, écrit la journaliste. Un grand patron bondit de son fauteuil en entendant les grilles de sa demeure céder sous les bras des manifestants enragés. C'était épouvantable, notre rue a été massacrée, dit un riverain. Notre quartier, une no-go zone, souffle une autre. Dès le samedi prochain, les voitures disparaissent des places de parking de la rue, surtout les plus luxueuses. Certains habitants font appel à des sociétés de sécurité privée, quand d'autres décident tout simplement de prendre le large direction Fontainebleau, Le Touquet, Trouville, Deauville, qui se frottent les mains. 20 à 30% de bénéfices supplémentaires pour les commerces de la station balnéaire normande.
Merci Antoine Geoffin, c'était la revue de presse sur France Inter.